À voix nue. Cette semaine, Zoé Sfès s'entretient avec Suzy Morgenstern. Ce soir, écrire le bonheur de l'écriture. Bonsoir Suzy Morgenstern.
Bonsoir Zoé.
Merci à nouveau de nous retrouver pour ce troisième épisode d'À voix nue. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la manière dont vous écrivez, vous avez écrit, des contraintes, des beautés, des difficultés d'écrire pour les enfants, d'écrire à hauteur d'enfant. Est-ce que hauteur d'enfant, écrire à hauteur d'enfant, est-ce que c'est un terme qui vous va ou pas? Comment est-ce que vous décririez-vous la manière dont vous écrivez?
Je dirais inconsciente, mais bien sûr, on est conscient qu'on écrit pour les enfants. Et souvent, je suis vexée quand je lis quelque chose qui est beaucoup trop difficile. Je me rappelle quand ma fille a dû lire Moby Dick en sixième, j'étais furieuse. C'est à te décourager de la lecture pour le reste de ta vie. Je suis fascinée par l'école et beaucoup de mes livres se passent à l'école. C'est forcément dans le monde de l'enfance. Je peux pas dire. Certaines personnes me regardent avec une voix pleine de sirop en disant « Vous aimez les enfants ?» Et non. J'aime certains enfants. J'aime les gens. Et certains enfants sont très sympathiques, d'autres pas. J'aime penser que je n'écris pas pour. J'écris ce qui me vient à la tête. Et c'est souvent dans le monde de l'enfance ou de l'adolescence. Je viens d'écrire un texte, je ne sais pas comment ça m'est venu, ça s'appelle « Soutif ». Et c'est l'histoire d'une fille qui achète son premier soutien-gorge et tout ce qui s'ensuit. Je me suis énormément amusée. Le monde des ados aussi, ça m'intéresse beaucoup. Ça vient par une idée, c'est la plus belle chose qui puisse arriver. Et ça arrive pas tous les jours. Je me lève le matin tellement heureuse de vivre et d'écrire. Et c'est tout ce que je fais. Et si quelqu'un a le malheur de me dire, mais fais-toi plaisir. Non, mon seul plaisir, c'est d'écrire. Je suis aux anges. La journée s'évapore. C'est le matin et puis c'est le soir. J'écris jusqu'à la tombée de la nuit. On n'a pas besoin de lumière pour écrire, mais moi, j'ai besoin de lumière pour écrire. Tous les jours, y compris dimanche, les vacances, j'aime pas les vacances. C'est tout ce que je veux faire de mon temps. C'est peut-être une maladie.
Une maladie? Pourquoi vous parlez d'une maladie?
Mais mon éditeur Arthur Schmitt disait toujours « Vous êtes tous des malades ». Et c'est vrai, passer sa vie à s'asseoir et à écrire, c'est fou. Et je suis une usine, j'enchaîne. Je suis jamais sans texte à écrire. J'aime beaucoup les commandes. La famille Trop de filles était une commande. Enfin, la commande, c'était une série. C'est moi qui... J'ai jamais voulu écrire des séries, mais je m'amuse beaucoup.
Une série de 26 maintenant. Yeah. Alors justement, c'est intéressant, vous avez dit, je ne veux pas écrire pour les enfants. Ça veut dire que vous écrivez depuis votre enfance. En fait, ça veut dire qu'effectivement, vous appelez l'enfant en vous. Les premiers livres que vous écrivez, on en a parlé, donc c'était un alphabet hébreu au début. Et puis le deuxième, c'est un livre qui s'inspire de ce que vous voyez chez votre fille.
Oui.
À quel endroit vous êtes quand vous commencez à écrire ce livre? Vous êtes comme si vous étiez votre fille ou vous regardez votre fille?
Alors, je crois que j'écris sur moi, n'importe comment. La grosse patate, c'était moi, c'était pas ma fille. J'ai dessiné ma fille, ce qui est peut-être pas psychologiquement très sain, mais...
Psychanalytiquement parlant.
La sixième, bon, c'était Maya, c'était, elle revenait tous les jours, ahurie par l'école, en disant « Maman, si tu savais comme je souffre, comme c'est horrible !» Et j'ai écouté. Maintenant, elle me dit que j'ai exploité sa vie. C'est pas si drôle. Et je crois qu'on est des exploiteurs, des écrivains. Une de mes copines m'a fait signer un contrat comme quoi je parlerai jamais d'elle. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Mes super copines » avec toutes les crèves-cœurs des copines.
Les relations tragiques.
Oui, oui. L'amitié, c'est un grand thème. D'enfance, parce qu'est-ce qu'on est amis, adultes, comme on est dans l'enfance? Certainement, l'amitié est très importante dans ma vie. Et pratiquement un culte de l'amitié dans ma vie. Si on faisait un film de ma vie, ça serait vraiment très, très ennuyeux.
C'est-à-dire vous qui écrivez?
J'écris, c'est tout ce que je fais, c'est une vie très austère. C'est pas du tout glamour.
Je vous ai beaucoup vu dire ou entendu dire que la vision de l'enfance qu'on avait en France était très performative, très efficiente. Que d'une certaine manière, l'enfance à la française était quelque chose d'assez étrange pour vous.
C'était la tragédie de mon immigration, parce que je suis arrivée à un pays où socialement, culturellement, c'était mieux que ce que j'avais connu en Amérique. Mais l'école, non. J'ai amené mon petit bébé à la maternelle et j'étais choquée que les parents disaient « travaille bien ». Des bébés. Deux ans et demi, 3 ans. Et en Amérique, on dit « have fun ». Amuse-toi bien. C'est la compétition commence très tôt. Et nous, on allait à l'école avec des battes de baseball, avec des raquettes de tennis. C'était la joyeuse école où on apprenait joyeusement, strictement rien. C'était la... Moi, j'allais avec l'allégresse à l'école. Mes petits-enfants, non.
Cette vision de l'enfance, du coup, comment est-ce que cette vision de l'enfance qui vous semble un peu restrictive, ou en tout cas avec une forme de pression sur les enfants, comment vous avez essayé de la combattre, peut-être, par vos livres? Pas de la combattre.
Ma fille Maya revenait de l'école, c'était CM1, CE2, et elle disait « Oh, j'ai tellement de devoirs, comment je vais faire ?» C'était toujours un drame. Et chaque jour, je lui écris un mot. Maya n'a pas pu faire ses devoirs parce que son oncle d'Amérique est arrivé, parce que sa grand-mère, parce que elle était malade. Et du moment où elle avait le mot, elle se mettait à faire ses devoirs sans se plaindre. Elle s'en est jamais servie.
Parce qu'elle n'avait plus cette pression, cette angoisse.
Ouais. Il y a trop d'écoles. C'est trop long, une journée. Trop de devoirs, trop tôt. Récemment, j'ai rencontré le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Blanquart, et il est très fier de donner à chaque enfant à la sortie de l'école primaire un livre. Et c'est bien de donner un livre pour certains enfants, ça serait le seul livre qu'ils ont dans la maison, c'est très bien. Mais le livre, c'est les fables de La Fontaine. Et tous les écoliers de France reçoivent les fables de La Fontaine. J'ai rien contre les fables de La Fontaine, mais ça va pas exactement susciter l'amour de la lecture. Il faut un intermédiaire, il faut l'expliquer. C'est difficile à lire. Et je dis. Mais donner à chaque livre qu'ils entrent dans une librairie, qu'ils choisissent un livre de tel prix, mais qu'ils choisissent un livre, et quel que soit le livre, c'est bon. Les fables de La Fontaine, on se réfugie derrière une valeur sûre, mais c'est pas si sûr que ça.
Alors, vous, quand vous écrivez, quand vous avez ces idées, on peut prendre quelques exemples. Joker, je crois que ça a été un de vos livres les plus vendus. C'est
C'est
un.
mon livre préféré que j'ai écrit.
Et c'est votre livre préféré? Alors, comment il est né, ce livre?
Il est né un jour de pluie que je voulais rester au lit, moi, la prof, à Nice. C'est rare une journée de pluie. Et j'ai dit, ah, si j'avais un joker pour rester au lit, et si j'avais un joker pour ne pas aller à l'école, et si j'avais un joker pour ne pas faire mes devoirs. Et c'était pour moi, la prof. Et je me suis levée, puisqu'il fallait se lever, et j'ai écrit tous les jokers. Et j'ai porté cette liste de jokers pendant 15 ans avant d'avoir l'idée pour réaliser le livre.
Ah, donc c'est une idée qui a 15 ans.
Oui, qui a mûri, que je savais, bon, tel jour, qu'il y aura un trafic des jokers. J'ai mis 15 ans pour que ce livre mûrisse dans ma tête. Et je l'aime parce que c'est tout ce que toute mon idéologie de l'école.
Et votre idéologie du bonheur, c'est-à-dire que il faut envisager l'école, la lecture, le savoir, l'apprentissage,
La vie.
comme du
La
et la
vie.
vie comme un cadeau, en fait.
Oui, un grand cadeau. Un grand cadeau. Et quand je rencontre des enfants autour de ce livre, je demande quel est le joker des jokers, le plus grand joker qu'on a. Et puis, on fait toute la liste, mon Game Boy, il y en a qui disent ma famille, il y en a qui disent très souvent des choses matérielles. Et puis, par miracle, il y aura toujours un enfant qui dira la vie, le plus grand joker, on est vivant. Et je le crois, oh combien! Quel bonheur de vivre.
Ce qui est intéressant, Suzy, si vous me permettez, c'est qu'effectivement, vos livres sont toujours très optimistes, mais ils abordent, et ça fait partie des marques de fabrique de votre littérature pour enfants, ils abordent à peu près tous les sujets, la mort, la tristesse, la Shoah.
Je me suis jamais vraiment permis, j'évoque la Shoah, mais je me suis jamais vraiment permis à écrire sur la Shoah comme Yael Hassan et Elisabeth Brami. Je me sens pas l'autorisation puisque je suis née après la guerre en Amérique. J'évoque et ça fait tellement partie de ma vie. J'ai cette idée que quand on écrit pour les jeunes, il faut leur prendre la main, il faut pas lâcher la main, et il faut donner envie de vivre, surtout donner envie de vivre.
Est-ce qu'il y a des idées que vous commencez à écrire et vous vous arrêtez parce que ça vous plaît pas? Comment est-ce que vous choisissez? Parce que vous dites que vous écrivez toute la journée, vous publiez énormément. Est-ce qu'il y a des mauvaises idées? Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous revenez?
Mais une fois que le livre est publié, on ne peut pas revenir dessus. Et tout ça, ça va assez vite. On n'est pas... Je reste pas des années sur un livre. Je devrais.
Non.
C'est très impulsif. Il y a des choses que je veux faire et que je n'arrive pas à faire. Par exemple, j'adore le personnage de la sorcière. Et j'ai essayé, je ne sais pas combien de fois, d'écrire une histoire de sorcière. Et c'était jamais assez bon. C'est comme, on ne sait pas, c'est une corde raide. Mon poème de ce matin était très mauvais. Mais des fois, c'est bon. J'ai fait mon poème, il n'est pas bon. Peut-être que je vais essayer de nouveau de le faire, mais ça tombe comme ça tombe.
Vous vous reprenez très peu, finalement.
Je reprends pas mal. Tous les jours, je reprends ce que j'ai écrit la veille et l'avant-veille. Je reprends beaucoup. Mais les dés sont jetés.
Les deux sont jetés quand le premier jet est sorti ou quand l'idée est posée.
Oui, oui.
C'est difficile de la modifier.
Je modifie encore. Mais... Il y a des textes qui ne sont pas aussi malléables et je sens que je suis à ma limite.
Comment est-ce que vous décidez, par exemple, à quelle tranche d'âge vous vous adressez? Est-ce que c'est l'idée qui porte ça en elle ou c'est une fois que vous avez écrit?
Je sais dès le départ. J'étais très surprise par Soutif. Moi, je pensais que c'était pour ados et l'éditeur pense que c'est beaucoup plus jeune. Il y a l'éditeur aussi. Et l'éditeur est très important. Moi, je ferais jamais un livre sans un éditeur. L'éditeur, c'est mon maître, c'est mon patron, c'est mon guide spirituel aussi. J'ai de très bons rapports avec mes éditeurs.
Vous, ils sont de quelle nature, elles sont de quelle nature vos relations avec vos éditeurs? Ils interviennent quand?
À la fin, j'envoie le texte et puis j'ai le retour de l'éditeur. Une seule fois, je n'ai pas accepté les corrections d'un éditeur.
Pourquoi?
Je lui ai dit que si j'acceptais ce qu'elle avait fait, il faudrait qu'elle signe le livre avec moi.
Parce qu'elle avait trop, elle était trop intervenue, elle avait réécrit.
Oui. Ma fille a dit qu'elle a fait la guerre au langage parlé. J'ai refusé en bloc ces corrections. D'habitude, je suis très reconnaissante pour les corrections. Dans ce livre, Touche-moi, c'est des petites touches. C'est pas terriblement structurel. On fait des... Bon, il faut me corriger, c'est sûr.
Qui vous corrige alors? Au début, qui vous corrigeait? J'ai lu que c'était vos filles.
Ma fille, Alia, qui corrige tous mes manuscrits.
Et quand vous avez commencé, qui c'était?
Mon mari.
Votre mari?
Oui.
Jacques, le mathématicien.
Je mendiais des corrections. Je tournais autour de lui. J'ai même offert à coudre un bouton contre des corrections. Mais il détestait ça.
Pourquoi il détestait ça?
Je crois que ça le faisait se rendre compte de la tarée avec qui c'est marié. C'était vraiment la corvée pour lui. Et Louis-Jacques, c'était vieille école. Il voyait une faute sans lire la page. Et à chaque fois qu'il y avait plus de 3 fautes dans une phrase, il écrivait dans la marge « merde ». Et j'ai des manuscrits où c'est écrit « merde, 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 merde » tout le long de la page, 25 fois dans la page.
Vous dites que vous n'écrivez pas pour les enfants, vous écrivez pour vous parce que vous dites que c'est votre plaisir, votre maladie. Est-ce que vous avez écrit un peu quand même pour Jacques, pour votre famille, ou plutôt contre?
Mais pour Jacques, oui, je voulais qu'il soit fier de moi. Et quand j'ai écrit « Lettre d'amour de 0 à 10 », il a lu le premier chapitre avant de mourir. Et il a dit « Là, tu fais bien ». Jamais il me faisait un compliment. Peut-être il sentait qu'il allait fourrer.
Parlons de Lettre d'amour de 0 à 10. C'est un de vos livres les plus primés, les plus aimés. Je pense un des plus lus. Il est aujourd'hui adapté en bande dessinée. Est-ce que vous pouvez me parler de ce livre, de ce projet? Je crois que vous avez mis du temps à l'écrire aussi, celui-là.
4 ans, parce que d'abord, j'ai commencé du vivant de Jacques et sur une idée de Jacques. L'idée de Jacques, c'était une lettre qui vient du front de Première Guerre mondiale et qui ne va rien dire à la fin. Mais, j'étais en deuil. Alors, j'ai laissé tomber aussi le livre pendant longtemps. Je ne pouvais pas écrire. Et quand je l'ai repris, c'était tellement important pour moi parce que c'était une idée de Jacques, la dernière.
Non.
Alors, je ne pouvais pas rater ce livre. Et puis un enfant m'a posé la question, comme on nous pose des questions dans la classe, les enfants ont très envie que tout ce qu'on écrit soit vrai. Est-ce que c'est vrai cette histoire? Et je dis non, c'est complètement inventé. Et est-ce que vous connaissez Ernest et Victoire?
Qui sont les deux héros de ce livre?
Et je dis non, je les ai complètement inventés. Et puis tout d'un coup, je me rends compte que, bien sûr, Ernest, c'est Jacques, l'enfant caché pendant la guerre. Et Victoire, c'est moi, l'Américaine qui vient sauver la France. Et c'était complètement inconscient. C'est 10 années après que je me suis rendu compte. Mais je suis contente de l'avoir écrit. Il y a des livres comme ça, tu te dis, j'ai pas vécu pour rien.
Quels sont les livres que vous aimez le plus? Est-ce que c'est ceux aussi que le public a aimé le plus?
J'aime beaucoup un livre qui s'appelle « Comment ça va ?» qui a vendu 2,5 exemplaires. Et j'adore ce livre.
De quoi parle-t-il, ce livre?
C'est un vieil homme qui sort et sa voisine lui demande comment ça va. Et il a oublié comment il faut répondre. Et on va, tout le livre, elle revient à la question « Et comment ça va ?» Et il ne sait pas quoi répondre. Et petit à petit, tous ses sens se réveillent et d'un coup, il se rend compte qu'il connaît la réponse. Ça va très bien, merci. Mais il y a beaucoup de choses qui arrivent entre le « comment ça va » et « ça va très bien, merci ». Ils se rendent compte, ils décortiquent la réponse. Ça vient de ma perplexité quand on demande en passant « comment ça va ?» Et puis, on n'attend pas la réponse, on s'en fout de la réponse. Mais lui, la réponse prend toute l'ampleur.
De la question, parce que c'est une vraie question.
Oui, et j'adore ce livre, et c'est pourtant illustré par Serge Bloch. C'est introuvable, ça n'a pas marché du tout. Il y a des enfants pauvres aussi que j'aime beaucoup. Mes livres, j'aime beaucoup mes livres autobiographiques et j'aime beaucoup écrire des livres autobiographiques parce que j'ai pas besoin de faire une intrigue, ce qui est la grande corvée pour moi, de faire une intrigue.
Est-ce que vous écrivez aussi ces choses-là parce que vous auriez peut-être aimé les lire quand vous étiez petite? Cette littérature jeunesse que vous avez peu lue ou qui n'existait pas, est-ce que vous écrivez aussi pour la petite Suzy de l'époque, ou en pensant à elle?
Je pense que j'étais déjà comblée parce que j'ai lu, il y avait peut-être dans ce dernier livre érotique, je trouve que ça m'aurait aidé de lire des livres comme ça. Être adolescent et être au courant de la sexualité, ça m'aurait aidé. Oui, peut-être c'est le seul où je pense à celle que j'ai été, combien ça m'aurait aidé.
Merci Suzy Morgenstern. Demain, on parlera de votre statut de star de la littérature jeunesse.
Merci Zoé.
À demain, Suzy.
J'aime être une star.
Vous retrouverez demain la suite de cet entretien de Zoé Sfez avec Suzy Morgenstern. À voix nue, prise de son Yvan Turc, réalisation Guillaume Baldi, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trenner. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.